When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet. Dans le numéro de ce mois-ci, le dossier est consacré au terrorisme. Et puis en vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de réaliser ces émissions, de vous les proposer gratuitement. Donc en nous abonnant, c'est une manière de nous soutenir et ainsi de nous permettre de continuer à vous offrir ces contenus différents, podcasts, émissions sur YouTube, magazines et sites internet. Alors cette semaine, nous allons évoquer un sujet important puisque nous sommes tous concernés par ce sujet-là. C'est le sujet de l'architecture, important évidemment parce que l'architecture façonne nos villes, façonne également des espaces moins urbanisés et l'architecture est toujours le reflet d'une pensée, d'une culture, d'un moment aussi. Et comme nous allons le voir au cours de cette émission, il y a des liens très importants entre architecture, énergie et écologie. Et donc c'est le point, le thème de cette émission, architecture et écologie, où nous allons essayer d'aborder différents aspects pour comprendre quels sont les enjeux architecturaux d'aujourd'hui. Pour traiter de ce thème, je reçois Grégoire Bignier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes architecte, vous enseignez dans plusieurs universités et masters et vous avez publié aux éditions Eyrolles une trilogie consacrée à l'architecture. Alors, il y a un ouvrage qui s'intitule « Architecture et économie », un autre « Architecture et écologie », puis un troisième « Architecture et énergie ». Je ne vous ai peut-être pas cité dans l'ordre de parution, mais c'est l'ordre dans lequel ils sont devant moi sur la table. Et en tout cas, dans chacun de ces ouvrages, vous analysez évidemment la question de l'architecture à travers ces trois thèmes que nous allons retrouver au cours de cette émission, ouvrage où il y a des croquis, il y a des exemples. Donc, pour tous les passionnés d'architecture, et si certains font des études d'architecture, eh bien, ce sont des ouvrages très importants. Et puis, ceux qui, comme moi, sont des consommateurs d'architecture, des consommateurs de bâtiments, c'est évidemment aussi très important de connaître ça. Première question, Grégoire Bignier, avant d'aborder la question de l'écologie et de l'énergie proprement dite, comment est-ce qu'on pourrait définir l'architecture? Qu'est-ce que c'est finalement l'architecture? Alors, évidemment, on connaît les bâtiments, on sait bien que c'est faire des bâtiments, mais il y a des ingénieurs aussi qui font les bâtiments. Qu'est-ce qu'apporte un architecte, proprement dit? Quel est son rôle dans la conception et la création d'un bâtiment?
Oui, c'est une bonne question. C'est une question d'ailleurs que je me suis posée en entrant à l'école d'architecture. Bon, j'ai vite compris que l'architecture, c'était pas que le bâtiment. Il y avait autre chose derrière cette notion-là. Pour faire simple, je dirais que ça dépend des époques. C'est-à-dire que chaque époque a défini finalement ce qu'elle entendait par architecture. Par exemple, si vous prenez l'époque de Vitruve, donc le siècle d'Auguste, il a écrit un traité qui définit l'architecture pour répondre à un certain nombre d'enjeux qui étaient à l'époque la gestion des infrastructures de l'Empire, ce qui allait devenir l'Empire, de la République à l'Empire, et puis aussi une façon d'affirmer le pouvoir le pouvoir central en fait, hein. Et donc il a proposé un certain nombre de règles de l'Écosse jusqu'à la Mésopotamie pour pouvoir aider les constructeurs romains à se servir de cette notion d'architecture pour justement relever ces enjeux. Et on voit que chaque époque produit finalement ses théories et définit sa propre vision de l'architecture, qui est différente au moment de la Renaissance, par exemple, ou de l'époque industrielle, l'époque moderne, et la nôtre. Et c'est ce qui m'a motivé, moi, dans la rédaction de cette trilogie, c'est finalement de réfléchir à, comme vous posez la question, qu'est-ce que l'architecture au XXIe siècle ?
Il y a, dans la notion d'architecture, on voit aussi que les temps anciens, au moins jusqu'au début du XXe siècle, sont très marqués. Paris n'est pas le Londres victorien, par exemple, ou n'est pas la Florence à l'époque de la Renaissance. Aujourd'hui, en matière d'architecture, on a l'impression qu'on va de plus en plus vers une uniformisation du style, ce style international qui fait qu'un gratte-ciel de Tokyo est quasiment similaire à un gratte-ciel de New York. Est-ce que la technique architecturale, la technique aussi en matière d'énergie, en matière de fabrication d'un bâtiment, n'est pas en train de l'emporter sur le style, sur la patte que peut apporter un architecte, et aussi sur le style de culture d'un lieu ou d'une ville?
Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à deux manières de concevoir l'architecture. La première que vous décrivez, qui est une espèce de style international que j'appellerais plus du design que de l'architecture, et qui résulte de l'économie linéaire mondialisée dans laquelle nous sommes. Donc une espèce de nivellement culturel de la question de l'architecture. On ne fait plus référence aux cultures locales, aux savoir-faire locaux, mais à une espèce d'imaginaire qui est censé être partagé par un Inuit comme un aborigène, comme un New-Yorkais. Et puis une autre manière de voir l'architecture, qui est celle que je défends, qui est de dire, de faire référence à un autre cadre de pensée, culturel, économique aussi. J'ai écrit un livre sur l'économie circulaire, ce qu'elle faisait à l'architecture, et puis l'écologie au sens non pas d'une écologie punitive, mais d'une écologie qui situerait le bâtiment quelque part. Voilà, tout simplement par le climat, par le mode de vie, par les technologies employées qui peuvent être à nouveau réinterrogées pour bâtir une architecture que j'ai appelée un peu rapidement architecture circulaire, pour vraiment s'opposer à cette espèce de grand design international qui finalement n'intéresse que quelques aficionados et le concepteur lui-même.
Parce que un bâtiment doit répondre à une fonction. Un hôpital n'est pas une école, n'est pas une maison. Donc il y a un usage du bâtiment. Et puis il y a également une intégration dans le paysage. Le passant, ce qu'il voit, c'est la façade. Il ne voit pas l'intérieur. Donc entre l'usager du bâtiment qui lui est à l'intérieur, ne voit pas l'extérieur, et le passant, il y a deux approches différentes d'un même bâtiment.
Oui, c'est-à-dire que ce type de bâtiment, de design, effectivement, est un peu à l'image de notre société, c'est-à-dire un contenu qui est parfois immergé, et puis une image qu'il faut faire ressortir et qui est censée, vendre le bâtiment, vendre l'action de son commanditaire, et finalement une espèce de schisme qui se fait entre les deux, et on obtient des bâtiments qui sont capotés pour justement répondre censément à ce besoin d'image, mais en fait qui est parfaitement factice.
Alors dans architecture et énergie, vous avez une partie consacrée à des bâtiments originaux, enfin très utiles évidemment, mais qui m'ont surpris de le voir traité dans ce genre de choses. C'était les ponts, les canaux, les passerelles. Alors évidemment, oui, ça participe pleinement à l'architecture, bien évidemment. Mais là, on est justement sur quelque chose qui est à la fois très utilitaire, un pont, et en même temps l'insérer dans un paysage. Il faut que le pont rehausse aussi le paysage. On a tous en mémoire de très beaux ponts, alors soit très anciens, soit très modernes, mais qui contribuent à valoriser le paysage urbain ou paysage rural dans lequel il est inscrit.
Oui. Au-delà de mon travail d'écriture, je suis architecte et je travaille dans deux domaines. Le génie civil, donc vous faites référence aux ouvrages d'art, et puis le patrimoine. Voilà, en ce moment, je réhabilite le pont de Vernon à Vernon, et puis un pont Lavardin, et puis je réalise un pont en entrée de ville de Saint-Malo. Donc en fait, ces deux spécialités me donnent un angle un petit peu, une façon de voir peut-être un peu différente de mes confrères, qui sont plutôt, pour l'essentiel, qui s'occupent de bâtiments. Voilà. Sur la question du paysage, tout dépend de ce qu'on entend par paysage, en fait. Il y a effectivement le paysage qui est un panorama, presque un tableau vivant, en quelque sorte. Et là, on est face à une approche, je dirais, de type artistique. C'est-à-dire, comment un objet peut dialoguer avec un paysage. Mais aussi, on peut le prendre de manière plus élargie. Un paysage, c'est aussi les gens qui le parcourent. C'est aussi un territoire économique. C'est aussi le lieu de la biodiversité. Et dans ces conditions-là, concevoir un ouvrage d'art, c'est pas juste un acte technique, économique ou artistique, ce qui est déjà pas mal, mais c'est une manière de s'inscrire dans une histoire avec un passé, donc ce territoire a un passé, mais a aussi un avenir. Quid, par exemple, du démantèlement du viaduc de Millau quand il sera obsolète? Ce sont des questions qui se posent déjà en Italie, et c'est des questions qui devraient être posées d'emblée dans la conception d'un ouvrage d'art.
Alors, il y a un terme ou un concept que vous utilisez, qui est le concept d'affordance, qui est un élément important dans vos ouvrages. Comment vous le définissez qu'est-ce que c'est que ce concept?
Oui, c'est un concept très intéressant qui est utilisé dans d'autres domaines que l'architecture. L'affordance, c'est un anglicisme qui vient de Gibson. Gibson était un psychologue américain et éthologue, et qui a fonder sa théorie sur cette notion de to afford en anglais, qui veut dire relier, qui veut dire mettre à disposition un potentiel. Alors, je m'explique pour ceux qui nous écoutent. Une l'anse d'une tasse de thé est une affordance. C'est-à-dire, en fait, l'anse d'une tasse de thé vous permet à la personne qui souhaite boire un thé de le boire sans se brûler. Bon. Alors, dit comme ça, ça n'a révolutionné rien du tout, mais si on pousse un peu plus loin, le petit menu qui s'ouvre dans un logiciel de traitement de texte, quand vous mettez en surbrillance un mot, et qui va vous proposer d'en changer la typographie ou la taille ou ce genre de choses, est une affordance. C'est-à-dire que à un moment, vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous de réaliser une action. Bon, mais à un moment donné, si vous n'aviez pas ça, il est probable que vous ne puissiez pas utiliser du tout ce logiciel, parce que vous auriez comme un tableau de bord de Boeing, vous auriez tout à disposition, et ça devient compliqué. Alors pour les pilotes, ça leur pose pas trop de problèmes, parce qu'ils sont formés pour ça, mais sinon, nous évoluons maintenant dans un monde où si vous n'aviez pas à disposition ce type de lien, de possibilité d'action au bon moment, vous auriez le plus grand mal à évoluer, même dans notre monde. Et en architecture, c'est utilisé pour mettre en relation le bâtiment avec le contexte. Raison pour laquelle j'ai écrit ces livres, c'est comprendre le contexte dans lequel on est, mais dans toutes ses dimensions, écologiques, économiques, énergétiques, notamment, pour que le bâtiment ne soit pas un élément hétérogène au paysage et qui puisse être correctement utilisé par les gens sans en avoir le mode d'emploi, en fait. Hein. Quand on rentre dans un bâtiment, il n'y a pas un mode d'emploi. Et c'est là où le concept d'affordance est intéressant. J'en termine en disant que ce qu'on appelle le UX design, c'est-à-dire ce qui vous permet, c'est le design qui vous permet, ergonomique, qui vous permet d'utiliser par exemple le téléphone portable qui est là sur cette table, utilise beaucoup ce concept d'affordance. Donc je l'utilise moi-même.
Alors pour aller sur les sujets écologiques, puisque c'est l'un des titres de votre trilogie, architecture et écologie, vous évoquez deux concepts, écologie circulaire et écologie industrielle. Alors on va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit. L'écologie circulaire, on comprend à peu près, c'est la notion de recyclage, de cercle, donc de choses qui vont être reprises. Écologie industrielle, ça paraît un petit peu antinomique peut-être, parce qu'on oppose généralement écologie et industrie. Commençons par l'écologie circulaire. Comment vous l'entendez, et dans un bâtiment, notamment sur la question énergétique, comment est-ce que celle-ci est mise en place?
Alors, c'est économie circulaire, hein, pas écologie circulaire. L'économie circulaire, c'est une forme d'économie qui est sur laquelle pas mal de gens commencent à réfléchir. Et quand je m'y suis intéressé moi-même, j'ai vu beaucoup de procédures différentes, notamment l'ADEME qui s'occupe de ça, on propose 7 ou 8, et finalement qui semble hétérogène, c'est-à-dire que c'est une suite de pratiques censément vertueuses, mais qui ne forment pas, à mon sens, un tout cohérent. Ce que j'ai essayé de faire pour voir quels pourraient être les liens entre l'économie circulaire et l'architecture, c'est d'essayer déjà de mettre de l'ordre dans tout ça, et c'est là où, effectivement, je vous rejoins. J'ai proposé 3 volets. L'écologie industrielle, dont je vais vous parler. Le recyclage, au sens très large du terme. Tout ce qui commence par re, intégrant par exemple la Renaissance, par exemple. Et puis une forme de d'économie qui serait venant de l'économie informelle, qui serait qui partirait dans dans ma réflexion à partir de l'économie sociale et solidaire. Alors l'écologie industrielle, premièrement, c'est un oxymore puisque effectivement ça semble assez antinomique. En fait, ça consiste à réfléchir l'écologie en termes de flux, comme le ferait un industriel, en termes de flux, de stock, d'échange, de voilà, de proximité ou au contraire lointaine. Ce qui ressort de ça, c'est que, si vous voulez, l'économie linéaire mondialisée dans laquelle on est, finalement, si on devait la résumer, on dirait stock court et flux long, c'est-à-dire les stocks les plus courts possibles pour ne pas payer cette charge-là, et puis les flux peuvent être extrêmement longs, ça peut venir de Chine. Alors que dans une économie circulaire, bah, c'est l'inverse, c'est des flux qui sont très courts, une économie de proximité, mais des stocks qui peuvent être longs, notamment en architecture. Par exemple, un bâtiment, c'est un stock de matériaux et d'énergie, et donc qui représente un certain capital. Quand on fait des très très grands projets, par exemple, moi j'ai travaillé sur les métros de Dubaï et de Delhi, on doit considérer l'infrastructure comme un capital de stock et d'énergie qui pourrait être en quelque sorte restitué. Dans le Grand Paris, ça aurait été bien que pour le métro, cette notion soit prise en compte. Alors c'est ça l'écologie industrielle. Ensuite, le recyclage. Bon, là, je ne vais pas faire un cours sur le recyclage. Je pense que tout le monde a un peu une idée de ça. Simplement pour dire que l'énergie peut permettre de se faire une idée du recyclage. Est-ce que on fait un recyclage, une réutilisation, un réemploi, une réparation, une réduction, voilà tout ce qui est heureux, comme je pouvais le dire. Et selon les niveaux d'énergie, on peut arriver à se faire une idée écologique de toutes ces procédures. Et puis après, sur l'économie sociale et solidaire, j'en ai parlé dans mon livre sur l'économie circulaire, en donnant des cas concrets en Île-de-France, de très variés, et qui, pour, comment dirais-je, donner une forme d'action politique municipale qui s'appuierait justement sur la reconnaissance de tous ces acteurs et de toutes ces procédures en place, à partir du moment où on arriverait à la faire fonctionner correctement par divers procédés. L'idée, c'était de, comment dirais-je, de donner un cadre à une réflexion politique au niveau territorial, en l'occurrence municipal.
Alors, il y a un cas que vous étudiez qui m'a particulièrement intéressé, puisque c'est l'Université catholique de l'Ouest, c'est là où j'enseigne, donc évidemment, je m'y suis retrouvé. Mais même pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, je trouve que ce cas est intéressant à étudier. On a là un campus universitaire qui est situé quasiment en centre-ville. On est à quelques minutes à pied de la gare, 7-8 minutes à pied de la gare d'Angers. Très ancienne université, alors qui a été fondée à l'époque médiévale, au XIIIe siècle, mais le bâtiment actuel pour le plus ancien date du XIXe, avec des bâtiments après du XXe et aujourd'hui du XXIe siècle, avec un restaurant universitaire qui a été créé. Et là, vous avez eu un rôle pour essayer de penser justement l'agencement des bâtiments, la création de certains bâtiments. On a le cas d'une université, on a beaucoup fait de campus dans les années 1960, et vous, ce qui vous a intéressé, c'est justement le fait que ce soit pas un campus excentré, mais un bâtiment universitaire en centre-ville.
Oui, ce qui m'a surtout intéressé, c'est que ce campus est composé d'un certain nombre de bâtiments d'époques différentes, donc de strates historiques différentes. Les premiers bâtiments viennent de la fin du 19e siècle et obéissaient à un ordre classique qui vient finalement de théoriciens français que sont Blondel jusqu'à Ledoux à peu près, et qui définissent le caractère que doit avoir un bâtiment, sa position dans la ville, le recul avec lequel on peut le prendre. Bref, une institution qui s'affirme par l'architecture en tant qu'institution pédagogique. Bon, voilà. Donc là, on est vraiment dans un ordre classique et un certain nombre de bâtiments de l'UCO datent de cette époque. Puis après, au XXe siècle, on a eu, des théories, à mon avis mal comprises, modernes, de bâtiments à la campagne, ou de un peu comme Le Corbusier imaginait pour le 8e arrondissement de Paris. Et finalement, ces bâtiments n'obéissaient plus à un ordre, s'implantaient au gré des possibilités foncières, avec des styles qui changeaient toutes les décennies. Et on se retrouve avec une sorte de, non pas de chaos, mais d'illisibilité du campus, même pour les étudiants qui le pratiquent. Bon. Comme la vocation du CO, c'est d'accueillir tout le monde, il y a cette exigence de lisibilité du campus, surtout un campus en ville. On n'est pas dans un enclos, une réserve d'indiens, on est vraiment dans la ville. Donc est-ce que ce campus est ouvert, est-ce qu'il est ouvert la nuit, enfin un certain nombre de questions. Et finalement, je me suis demandé, et si le XXIe siècle, dans ses efforts de réponse écologique aux enjeux actuels, devait établir un nouvel ordre, quand j'entends ordre au sens architectural du terme, hein, bien entendu, eh bien, quel serait-il ? Et c'est ce qui est un peu le point de démarrage de mon livre sur l'énergie, c'est-à-dire est-ce que l'énergie est la grandeur cardinale de cet ordre-là à mettre en place, et est-ce que à quelles conditions on pourrait avoir une visibilité de ce campus. C'est là où le concept d'affordance est utile, parce que on a aussi une vision aujourd'hui virtuelle de la ville. Avec voilà, avec son téléphone portable, il y a cette double dimension, hein, physique et puis virtuelle, et donc il faut réfléchir à cet ordre-là pour, à mon avis, développer un campus du type de l'UCO.
Ce que vous montrez également dans cet exemple, c'est le rapport entre architecture et économie, puisqu'il y a une économie qui se développe autour de l'université. Alors, évidemment, les cafés, les endroits où on peut acheter de quoi se nourrir, la boulangerie et autres, et puis également les logements étudiants. Donc, il y a un lien entre la ville et ce campus universitaire, comme pour tous les campus universitaires par ailleurs, mais donc ça participe aussi à ce rapport entre architecture et économie.
Oui, on peut analyser le site de l'UCO à Angers au travers du prisme de l'économie de la fonctionnalité. Je donne un exemple, c'est un campus où il n'y a pas d'hébergement des étudiants. Les étudiants sont hébergés en ville. Et donc là, c'est intéressant parce que finalement, les habitants peuvent mettre à disposition une chambre selon un certain protocole, et les étudiants peuvent bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un centre-ville, d'une grande ville comme Angers, y compris la connexion par le TGV. Voilà, chose que vous ne pouvez pas faire dans un campus qui est excentré, en quelque sorte. Hein. Et donc, ce modèle-là, moi, je le trouve intéressant parce que, d'abord, tout le monde y gagne, et puis, ça permet une meilleure intrication des différentes populations, si je peux employer ce mot un peu technocratique, et finalement participer de cet ordre qui est l'objet de mes recherches.
C'est tout l'inverse de ce qu'on a fait à Saclay, par exemple. Là, on a voulu, enfin, c'était volontaire d'ailleurs, faire un immense campus avec plein de pôles universitaires, centres de recherche et autres, mais c'est complètement coupé de la
capitale
et de Paris.
C'est exactement l'inverse, oui.
Et on le voit d'ailleurs, alors pour ceux qui sont parisiens, ça a été le drame de la fermeture du magasin Gibert. Mais bon, il y a plusieurs causes qui ont provoqué la fermeture de cette librairie, mais une des causes, c'est aussi qu'il y a beaucoup de centres d'étudiants, universités hautes, qui sont partis du quartier latin. Donc forcément, comme Gibert avait principalement pour clients des étudiants, si on enlève les étudiants, il y a moins de clients, et donc ça participe à la fermeture des librairies.
C'est exactement un exemple de ce que je viens de dire tout à l'heure en termes de fonctionnalité.
Sur les questions énergétiques, pardon, on va y revenir parce que c'est un élément qui est évidemment important. Un bâtiment, il fait chaud, il fait froid, donc l'énergie, c'est réchauffer certaines fois, certaines saisons, refroidir à d'autres moments. Vous évoquez aussi la question de la géothermie. On voit là qu'il y a eu énormément de progrès techniques au cours des dernières décennies, à la fois pour les fluides, faire du chaud ou faire du froid, pour isoler un bâtiment, pour réutiliser l'énergie qui peut être produite. Comment est-ce qu'aujourd'hui on intègre ces nouveautés techniques dans les bâtiments que l'on conçoit à partir de rien, que l'on crée, ou bien que l'on rénove? Ça, c'est aussi un autre sujet, la rénovation.
Alors, bon, la façon que les constructeurs ont d'intégrer cette question énergétique dans le bâtiment, je ne vais pas trop la développer parce que bon, je pense que les auditeurs ont une petite idée sur la question. En règle générale, on surcharge année après année par la réglementation les contraintes énergétiques, et finalement on fait de tous ces bâtiments des bouteilles thermos avec des fenêtres, des toutes petites fenêtres, et voilà. Et c'est une charge supplémentaire. Il faut maintenant, pour déposer un permis de construire, donner une notice énergétique. Alors, si on prône l'écologie, on devrait s'en réjouir. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est la seule réponse que l'architecture au XXIe siècle peut donner à ces questions d'enjeux énergétiques et écologiques ? Mon idée est que non. Et j'ai essayé dans mon dernier livre, donc Architecture et énergie, de l'étudier, de proposer une alternative à ce modèle-là, à deux échelles, à l'échelle de l'urbanisme, c'est-à-dire de la ville, et puis à l'échelle du bâtiment. À l'échelle de l'urbanisme ou du territoire plutôt, J'ai appelé ça une matrice énergétique, c'est-à-dire comment faire que la ville du XXIe siècle s'implante, reconnaisse qu'elle s'implante quelque part dans un champ énergétique et qu'elle crée elle-même les ressources pour d'une part capter des énergies à demeure, si je peux dire, et puis d'autre part puisse, comment dirais-je, offrir un métabolisme énergétique qui soit le frugal. Voilà. Alors pour ce faire, deux éléments. Le premier, c'est de considérer que si un gramme d'uranium donne 100 000 fois de plus d'énergie qu'un gramme de déchets ménagers, le déchet ménager, il est sur place, il est beaucoup plus abondant et il ne nécessite pas de transport et des précautions qu'on doit prendre pour mettre en place. Je rentre pas dans la polémique de l'architecture de l'énergie nucléaire, hein, on pourrait dire la même chose du pétrole, ce genre de choses. Donc, ça veut dire que sur place, on a un certain stock d'énergie qu'il faut reconnaître et arriver à lui permettre d'établir une sorte de métabolisme urbain. Et puis l'autre notion, c'est celle que les auditeurs connaissent certainement, l'énergie fatale. C'est-à-dire que c'est l'énergie que fatalement vous perdriez si vous ne la réutilisez pas. L'exemple qui est donné en général, c'est la chaleur d'un data center qui chauffe un petit lotissement à proximité. Alors ça, c'est doublement intéressant parce que cette énergie, si vous la perdez, elle vient polluer la biosphère. Alors ce sont les fameux îlots de chaleur, hein. Moi j'habite en banlieue, il fait 3 à 4 degrés de moins qu'à Paris, et donc c'est clairement une pollution, et d'autre part c'est une énergie que vous perdez et qui n'est pas à disposition. Donc ça c'est au niveau du territoire. Au niveau de l'architecture, la notion de l'énergie m'a intéressé parce que, enseignant depuis une vingtaine d'années, je me rends compte que les disciplines qui sont enseignées en école d'architecture et qui constituent cet enseignement sont très éparpillées. Vous avez de l'histoire, vous avez de la construction, ce que j'enseigne moi-même, vous avez de l'architecture, de l'urbanisme, des sciences sociales, ce genre de choses. Et puis, tous ces gens-là ont de plus en plus de mal à échanger entre eux, communiquer. Même au sein de la construction, les grandeurs utilisées ne sont pas les mêmes. Il y a les joules d'un côté, les tonnes de l'autre, des lumets Delux pour la lumière pour l'autre, et finalement ces gens ont de plus en plus de mal à communiquer. Alors l'étudiant est un peu désarçonné et découragé par cet éparpillement. Et donc ce qui m'a intéressé dans l'énergie au niveau de l'architecture, c'est de voir si ça ne pouvait pas être une grandeur cardinale de l'architecture, une grandeur cardinale qui serait reconnue en tant que telle, hein. Pas seulement la gravité, comme on l'enseigne en construction, la gravité n'est qu'une forme d'énergie comme une autre. Et je me suis rendu compte que grâce à ce concept d'énergie, on pouvait parler de tous les aspects de la construction du bâtiment et peut-être par extension de l'architecture.
Il y a un exemple que vous prenez qui sont des ampoules. Vous parlez des ampoules incandescentes et des ampoules, j'ai oublié notre terme.
À LED.
À LED, voilà. Donc une qui rejette de la chaleur et l'autre non. Et vous dites finalement, une ampoule qui rejette de la chaleur, ça peut être utile l'hiver. Donc ça va dépendre des saisons, leur usage ou leurs aspects négatifs ou non.
Oui. En fait, au travers de cet exemple un peu anecdotique, je voulais simplement dire que on peut pas faire, je pense, de l'écologie avec juste des idées toutes faites ou un peu simplistes comme celles que vous venez effectivement de relever par ce paradoxe. Je pense que il faut remettre tout à plat et finalement l'énergie permet justement d'interroger toutes ces notions qui semblent évidentes, mais finalement il faut trouver une cohérence à toutes ces notions là de rendement, de transfert d'énergie, de transport d'énergie, de perte de charge. Voilà, c'était un peu pour argumenter sur votre remarque.
Alors, il y a les bâtiments donc on construit à partir de rien. Donc là, évidemment, on a une feuille blanche et on peut apporter les dernières nouveautés techniques. Quand on fait de la rénovation de bâtiments, c'est plus compliqué parce qu'il faut à la fois respecter la forme existante et puis il y a des contraintes. On peut pas complètement tout casser et tout refaire. Comment est-ce que là, la notion écologique peut s'insérer dans la rénovation d'un bâtiment ?
Alors, je relève quand même un point. Quand vous avez dit dans le neuf, on part d'une feuille blanche. En termes d'écologie, il n'y a aucune feuille blanche qui existe. C'est-à-dire, il y a un lieu, à une histoire, un programme vient de quelque part. le bâtiment aura un avenir. Et donc, il y aura plutôt trop que pas assez, en fait. Hein. C'est plutôt une mise en ordre qu'il faudrait qu'on faire d'abord en conception. Sur la rénovation, bah, finalement, ça consiste à dire que le neuf et la rénovation ne sont pas différents, parce que la rénovation, je dirais, tous ces éléments préexistants, effectivement, sont là matériellement. Alors, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de savoir ce qu'il convient de préserver. Ça paraît facile de répondre à cette question, ce qui est en bon état, ce qui mérite de l'être historiquement et culturellement. Mais finalement, ce sont des questions qui ne sont pas si faciles que ça. Par exemple, un TD que je donne à mes étudiants, qui est, vous devez, pour un client, construire une maison dans le maquis corse, est-ce que vous déboisez ou pas? Alors, si vous déboisez, effectivement, vous mettez en sécurité contre les incendies la maison, et donc là, il ne faut pas préserver la biodiversité, enfin, la flore aux alentours. Mais si vous introduisez une discontinuité dans le champ de la biodiversité, et si vous ne déboisez pas, effectivement, vous avez a priori une approche plus écologique, mais vous prenez le risque en cas d'incendie, que la maison parte avec. On le voit dans les grands incendies américains, notamment en Californie. Donc c'est une question que le client va poser immédiatement à l'architecte. C'est qu'est-ce qu'il convient de faire? Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on préserve? Et vous mettez en balance des notions qui sont très différentes. Par exemple, la biodiversité contre la sécurité des biens. Bon, voilà. Donc ce sont des arbitrages à faire. Donc cette question de la préservation est pas si évidente que ça dans le cas de la rénovation. Et après, si on pousse un peu plus loin, ce que je propose à mes étudiants, une fois qu'on a tenté de répondre à cette question de préservation, c'est la question du remboursement. C'est-à-dire que, en fait, dans l'acte de construire, il y a une notion de rembourser la dette écologique. Si vous voulez, il y a souvent des étudiants qui me demandent de manière un peu angoissée, pour certains, est-ce que être architecte, c'est forcément aggraver la situation, une situation écologique? C'est-à-dire, est-ce que l'acte de construire est par essence un acte qui aggrave une situation? Et donc là, rembourser, ça permettrait d'envisager autrement, c'est-à-dire de l'acte de construire, justement, permettrait d'aller à contresens, en fait, de ce genre d'approche. Puis la troisième étape, finalement, c'est se réconcilier. C'est-à-dire que quand on veut avoir une relation équitable, là en l'occurrence entre l'homme et l'environnement, pour faire simple, eh bien, pour se réconcilier, il faut déjà avoir soldé les comptes et puis réfléchir à un contrat de mariage, en quelque sorte, un nouveau contrat anthropologique.
Vous avez évoqué tout à l'heure la question des normes. Ça, c'est, on a l'impression que ça pèse de plus en plus sur l'architecture et que c'est quasiment ce qui va être regardé en premier, le fait de bien répondre aux normes qui sont de plus en plus nombreuses. Et ça peut être des normes sur les volumes, sur la hauteur du bâtiment, sur les questions énergétiques. Est-ce que le métier d'architecture ou d'architecte, pardon, aujourd'hui n'est pas de plus en plus le fait de cocher des normes et de vérifier que le bâtiment correspond bien?
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, le métier aujourd'hui d'architecte, c'est d'offrir une conception qui réponde à un canevas de normes et puis capoter tout ça. On le voit dans les derniers bâtiments, enfin dans les derniers quartiers qui se mettent en place à Paris, où on voit un catalogue de façades différentes, mais en fait les logements derrière sont pratiquement identiques, à telle enseigne que maintenant, finalement, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça d'architecture? Je pense que c'est plutôt du design que de l'architecture. La question que ça pose, en fait, c'est le type de gouvernance qu'on pourrait imaginer dans ce nouveau contrat anthropologique dont je vous parlais. Dans le premier livre sur l'écologie, j'avais imaginé trois échelles différentes et trois gouvernances assez fondamentalement différentes pour justement sortir de cette mécanique normative. La première, au niveau territorial, c'est de s'appuyer sur un collège d'experts à condition qu'il soit contrôlé démocratiquement, donc type GIEC par exemple, mais contrôlé démocratiquement, pour répondre à des questions de climat, de biodiversité à l'échelle des migrations, par exemple d'oiseaux, ce genre de choses. À l'échelle de la métropole, c'est-à-dire une échelle un peu en dessous, l'échelle de la ville, là je pense que le politique a un rôle à jouer de médiateur entre la population et puis les différents acteurs du développement du territoire. Et puis à la micro-échelle, c'est-à-dire la vôtre, la mienne et la vôtre, laisser au contraire une liberté la plus grande possible aux citoyens de s'organiser, soit entre eux, soit au sein de son propre, de sa propre architecture, de son propre logement, une sorte d'écologie libertaire en quelque sorte. Ça nous aurait peut-être évité le phénomène des gilets jaunes si, comme vous le rappelez, qui a émergé avait sur ces questions notamment de coûts d'énergie. Voilà, sachant que les gilets jaunes habitent dans des endroits où l'énergie devrait être, est à disposition, mais on les contraint la plupart du temps à se brancher sur un opérateur central qui lui n'a que faire de l'avenir économique des gens qui de ses clients. Quoi.
Et on le constate aussi en matière urbanistique. Moi, je le vis, enfin, en tant conseiller municipal depuis quelques années, où on nous demande de préserver des espaces naturels ou des espaces urbains. Et de l'autre côté, on nous oblige aussi, enfin, quand je dis on, c'est les lois, notamment la loi SRU, et le préfet qui va pousser pour qu'on l'applique. Et donc, les communes sont obligées de construire et de construire pour respecter des normes de logements sociaux. Et donc, ça veut dire détruire des pavillons pour mettre des petits immeubles de 4-5 étages. Donc, ça chope toujours beaucoup les populations qui voient se transformer leur centre-ville, sans comprendre que il y a là une obligation et que le maire, donc encore le pouvoir politique local, et l'architecte, c'est pareil, doit se soumettre à des normes qu'il ne contrôle pas et qu'il doit mettre en place.
Oui, c'est ce que je vous dis. Je pense que le politique a un rôle bien trop important à cette échelle-là, qui est, à mon avis, indu. Je prends l'exemple du logement social, par exemple. Le logement social, c'est une forme possible de développement du logement, mais c'est pas celle qui serait la plus vertueuse en soi. Or, on impose des quotas de manière totalement arbitraire, qui sont les mêmes partout. C'est une écologie, pour moi, qui est punitive et qui est anti-économique, et surtout qui risque d'être profondément anti-écologique, parce que, justement, il y a des trois acteurs habituels qu'on présente dans la société, c'est-à-dire les citoyens, les politiques et les experts. Je trouve que les politiques là se mettent en haut du chapeau et imposent. C'est vraiment tout à fait une politique, comme disent les universitaires, top-down, c'est-à-dire qu'ils descendent là-haut et puis le tissu local doit s'exécuter. Je pense que c'est une erreur.
Dernière question, Grégoire Binier, autour de cette question d'écologie, comment est-ce qu'aujourd'hui on conçoit aussi la durée d'un bâtiment? On fait un bâtiment évidemment pour remplir un contrat et donc le livrer à un moment donné, mais ce bâtiment il peut durer plusieurs décennies, voire même parfois plusieurs siècles. Comment aujourd'hui on intègre cette notion de durée, traverser des temps quand on construit un bâtiment nouveau?
Alors en fait, c'est la même question que les normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un architecte va pas se poser la question de savoir si son bâtiment doit traverser les siècles ou le fera. Il va simplement respecter quelques échéances qui lui sont données. Alors d'abord, la plus importante pour malheureusement la majorité de mes confrères, et ça je lutte auprès de mes étudiants pour ça, c'est le jour de l'inauguration. Voilà, est-ce qu'il est clinquant et on peut faire une très belle photo, parce que je peux pas leur jeter la pierre. C'est ça qui est déterminant pour la suite de leur carrière. C'est ça qu'on regarde, c'est ça que les magazines montrent. Bon, alors c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça rejoint cette politique de l'image qui est assez néfaste. Ensuite, il a une garantie, différentes garanties, dont la plus connue en France c'est la garantie décennale sur la structure de son bâtiment. Mais finalement, là, c'est plutôt les ingénieurs qui vont s'occuper de cette partie-là. Puis elle est tellement normée que, à moins de construire des ouvrages très particuliers, en général, ça pose pas une énorme difficulté. Donc finalement, les architectes sont plus tellement interrogés sur cette question de durabilité. Il est aussi rare que des clients disent « je souhaiterais que la maison que vous me construisiez, je puisse la transmettre à mon petit-fils ». En général, c'est plutôt d'autres éléments qui sont mis en avant. C'est une question qui est très fortement réinterrogée, comme je vous l'ai dit, par l'écologie. Et je vous disais tout à l'heure que je travaille dans le domaine du patrimoine. Et là aussi, c'est une question, mais qu'il faut prendre, à mon avis, de manière, il faut regarder autant le passé que l'avenir. Et voilà, le présent, c'est le passé de l'avenir ou l'avenir du passé. Il y a là aussi un paradigme intellectuel sur lequel il faut réfléchir pour arriver à sortir une architecture qui réponde aux enjeux de notre siècle.
On le voit aussi avec certains bâtiments qui changent d'affectation. Donc on peut avoir une usine qui va devenir un logement. On a aussi, notamment dans les centres-villes, parfois on garde uniquement la façade et puis tout l'arrière est détruit. On fait un bâtiment flambant neuf aux dernières normes et la façade n'a pas changé. Est-ce que ça se pense aussi en matière architecturale, cette transformation du bâtiment ?
Oui, ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire c'est reconnaître une valeur à au bâtiment ou à une partie du bâtiment, on pense par exemple aux façades haussmanniennes, c'est reconnaître cette valeur, c'est reconnaître la valeur du passé, le bien commun aussi que constitue cette façade. Je pense qu'il paraît difficilement concevable d'isoler par l'extérieur toutes ces façades haussmanniennes, sinon Paris perdrait 80% de son intérêt. Juste une petite anecdote, quand je suis rentré de Taïwan où j'ai travaillé pendant un certain temps, je suis rentré avec quelqu'un qui n'avait jamais quitté Taïwan. Et quand il est arrivé à l'aéroport, il m'a demandé de prendre le bus avec lui pour l'accompagner, lui faire les premières visites de Paris. Moi, je ne le connaissais pas plus que ça, j'ai sympathisé dans l'avion. Il est arrivé à la porte de Porte-Maillot, où là, ça ressemblait un petit peu à Taïwan, c'est-à-dire un grand chaos avant, entre Roissy et la Porte Maillot. Et puis, il a commencé à remonter l'avenue de la Grande Armée et descendre l'avenue des Champs-Élysées. Et quand il a vu les premiers immeubles haussmanniens, il n'a rien dit, il était vraiment très surpris. Et puis, il m'a dit, mais il y a quand même beaucoup de musées dans cette ville. Alors, je lui ai dit, non, ce ne sont pas des musées, c'est des habitations. Et il m'a dit, il m'a regardé d'un air goguenard. Et puis à la fin, il a dû concevoir que c'était pas que des musées, mais des habitations. Et là, j'ai cru qu'il allait faire le syndrome de Stendhal, parce qu'il était complètement stupéfait. Complètement stupéfait. Il a fallu que je l'accompagne jusqu'à son hôtel, et puis quasiment lui parler pendant une heure ou deux pour qu'il reprenne un peu ses esprits. Ce qui m'est arrivé la première fois quand je suis allé à New York. Donc toute cette valeur-là, il faudrait pas que toutes ces normes et toutes ces règles viennent finalement tuer la poule aux œufs d'or, si je peux répondre rapidement de cette manière-là.
Bien, merci beaucoup, Grégoire Migné, d'avoir évoqué pour Conflit ces sujets architecturaux. Je rappelle le titre de vos ouvrages, donc qui forment une trilogie parue chez Erol, Architecture et écologie, Architecture et économie, Architecture et énergie. Toutes les références sont, comme chaque semaine, à retrouver sur le site internet de Conflit. Et puis également, sur notre site internet, vous pouvez retrouver notre numéro qui est actuellement en kiosque et qui est consacré au terrorisme. Et puis les anciens numéros également, que vous pouvez acquérir au format papier et en format numérique. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner donc sur notre site revueconflit.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.